VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 14 janvier 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Deuxième mise en accusation de Donald Trump par le Congrès une semaine avant la fin de son mandat. Le président américain est accusé d'avoir encouragé l'assaut de ses partisans contre le Capitole. Le Sénat organisera son procès après l'investiture du président élu Joe Biden. Les Ougandais se sont rendus aux urnes ce jeudi pour choisir leur président. Un casque bleu blessé mercredi dans une attaque au Mali a succombé, portant à 4 le nombre de soldats ivoiriens tués. Le président américain Donald Trump a lancé un appel à l'unité mercredi soir, peu après sa mise en accusation pour la deuxième fois au Congrès. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a voté pour cet impeachment historique. Le président sortant est accusé d'avoir encouragé l'assaut le 6 janvier dernier par ses partisans contre le Capitole. Les heurts ont fait 5 morts. Le point avec Lionel Gaïma.
Donald John Trump, President of the United States, is impeached for high crimes and misdemeanors.
Le vote marque l'ouverture formelle de la procédure de destitution contre Donald Trump. Et il appartient désormais au Sénat de le juger. Pour le chef de file des Républicains à la Chambre haute, Mitch McConnell, il n'y a simplement aucune chance de pouvoir conclure son procès de manière sérieuse et équitable avant la prestation des serments du président élu. Joe Biden estime, lui, qu'il est important qu'un tel procès durant les premiers jours de son mandat ne retarde pas les travaux sur les priorités législatives, notamment les confirmations des nominations au sein de son administration. Le président élu a appelé les chefs de file du Congrès à trouver un moyen de gérer ces questions en parallèle. Dans une vidéo diffusée par la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé depuis le bureau ovale les Américains à l'unité sans mentionner son second renvoi en procès. Il a assuré que les auteurs de violences de la semaine dernière au Capitole ne pouvaient pas être ses véritables partisans. Si vous faites cela, vous ne soutenez pas notre mouvement, vous attaquez notre pays. Nous ne pouvons le tolérer, a-t-il ajouté.
Catherine Gibson, correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès américain, revient sur les débats et le vote de mercredi à la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates. Le récit est de Jacques Aristide.
La Chambre des représentants s'est prononcée en faveur de cet impeachment par 232 voix contre 197.
Donald John Trump, président de l'Union.
Un seul acte d'inculpation a été voté pour incitation à l'insurrection en lien avec l'intervention de Donald Trump le 6 janvier dernier devant des milliers de partisans rassemblés près de la Maison-Blanche peu avant l'assaut contre le Capitole. Le vote est intervenu après le refus du vice-président sortant Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution pour déclarer le président Trump inapte à exercer sa fonction. Nancy Pelosi est la présidente démocrate de la Chambre des représentants.
Le président a vu les insurgés non pas comme des ennemis de la liberté, ce qu'ils sont, mais comme un moyen d'atteindre un objectif terrible, son objectif personnel de s'accrocher au pouvoir, l'objectif de contrecarrer la volonté du peuple, l'objectif de mettre fin dans un affrontement féroce et sanglant après de 2 siècles et demi de notre démocratie.
La plupart des républicains de la Chambre ont argué que les actions du président ne relevaient pas du niveau de mise en accusation, même si certains ont reconnu son rôle dans l'assaut. Pour Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre, le président devait plutôt faire l'objet d'une motion de censure.
Le président porte la responsabilité de l'attaque de mercredi contre le Congrès par les émeutiers. Il aurait dû immédiatement dénoncer la foule quand il a vu ce qui se déroulait.
Désormais, le premier président de l'histoire américaine à être mis en accusation 2 fois, Donald Trump avait déjà condamné les troubles du Capitole.
Aucun de mes véritables partisans n'approuverait la violence politique.
10 républicains ont voté en faveur de la mise en accusation, dont Liz Cheney, numéro 3 dans la hiérarchie républicaine à la Chambre, et fille de l'ancien vice-président Dick Cheney. Elle a qualifié les actions de Donald Trump comme la plus grande trahison jamais commise par un président. Le chef de la majorité au Sénat, le républicain Mitch McConnell, a rejeté les appels des démocrates à la tenue rapide d'un procès. L'analyste Hélène Kamark est de la Brookings Institution.
Ce sera malheureux pour Biden et malheureux pour le pays parce que la seule chose que nous attendons tous est l'argent face au Covid-19.
S'il était reconnu coupable au Sénat, Donald Trump ne pourrait plus jamais se présenter aux élections fédérales aux États-Unis.
Après la mise en accusation du président Donald Trump par la Chambre des représentants, c'est au Sénat d'organiser le procès qui se tiendra après son départ de la Maison-Blanche. Le président élu Joe Biden appelle le Congrès à travailler sur les priorités de la prochaine administration, malgré le procès qui va se dérouler durant sa présidence. Abdourahman Dia a joint le journaliste et ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, Claude Porcella.
Oui, le procès va se tenir au Sénat. La question, c'est quand. Les démocrates, et notamment celui qui va être le prochain chef de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, souhaiterait que le procès se déroule dès maintenant, de façon que si éventuellement Donald Trump est condamné, reconnu coupable d'incitation à l'insurrection, il puisse être démis de ses fonctions avant la date officielle de son départ de la Maison-Blanche, c'est-à-dire mercredi prochain, le 20 janvier, lorsque Joe Biden prêtera serment. Mais le Sénat est toujours, jusqu'au 20 janvier, entre les mains de l'actuel leader de la majorité, Mitch McConnell. Et lui a dit non, le procès ne peut pas avoir lieu immédiatement. Donc l'idée de Mitch McConnell, c'est de retarder le procès afin qu'il ne commence qu'après la prestation de serment.
Le problème, selon certains des partisans du président, c'est que la procédure d'impeachment est un peu destinée à juger des présidents en fonction et pas en citoyen ordinaire, parce qu'après le 20, le président Trump devient un citoyen ordinaire, si on peut le dire ainsi.
Oui, c'est vrai, et cela semble un peu futile de vouloir condamner un président ou le démettre de ses fonctions quand il les a déjà perdues. Mais Joe Biden est évidemment très pressé de mettre sur les rails son programme législatif. Et évidemment, si le procès commence, disons, le 22 ou le 25 janvier, toute l'attention des médias va être accaparée par le procès. Et donc, le programme législatif de Biden devra attendre un peu. Il a suggéré de couper la poire en deux, si je puis dire. Une partie de la journée serait consacrée au procès et l'autre au travail législatif. Mais évidemment, de toute façon, ça va. Il ne faut pas se leurrer. Le procès sera véritablement le sujet dont tout le monde parlera.
Justement, ce matin, Joe Biden, dans une déclaration, a dit qu'il espérait que le Sénat trouverait une façon de gérer ses responsabilités constitutionnelles, tout en conduisant les affaires urgentes de la nation.
Une bonne partie de la nation a été choquée par le discours du président le 6 janvier. Mais bon, ça va être oublié. Et puis, est-ce que le président sera-t-il vraiment condamné ? Il serait le premier à être condamné. Il y a eu pas mal de procès en destitution. Aucun président n'a jamais été condamné.
Claude Porcella était joint à Washington. Les Ougandais se sont rendus aux urnes ce jeudi pour une élection présidentielle tendue et des législatives. Le jeune député et chanteur Bobi Wine est le principal adversaire du président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 35 ans. John Lydon nous en dit plus.
Quelque 18 millions d'électeurs sont appelés dans 34 600 bureaux de vote pour choisir leur président parmi 11 candidats et leurs députés. Je continue à encourager tous les Ougandais à se déplacer pour voter, a déclaré Bobi Wine, qui a voté près de Kampala, la capitale, quadrillé par la police. Il a affirmé que plusieurs observateurs de son parti ont été arrêtés dans la matinée. Au pouvoir depuis 1986, Yoweri Museveni brigue un sixième mandat dans un pays où les trois quarts des 44 millions d'habitants ont moins de 30 ans. Surnommé M7, l'ex-guerriero s'affiche en grand favori. « Nous sommes sûrs de la victoire », a déclaré son porte-parole. Les résultats de la présidentielle sont attendus 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, a assuré sur Twitter la commission électorale. Depuis mercredi soir, l'accès à Internet est largement perturbé. Les réseaux sociaux et services de messagerie sont coupés.
Un casque bleu blessé mercredi au Mali dans une attaque djihadiste a succombé, portant à 4 le nombre de soldats ivoiriens tués dans les rangs de la mission onusienne mercredi. Il est décédé lors de son évacuation vers le Sénégal. La MINUSMA a perdu 145 membres depuis son déploiement en 2013, a indiqué son porte-parole Olivier Salgado, ce qui en fait la mission de paix de l'ONU la plus meurtrière au monde. En République du Congo, les électeurs sont convoqués le 21 mars pour l'élection présidentielle. Les forces de défense et de sécurité voteront le 17 mars afin de pouvoir se consacrer à la sécurisation le jour du vote de la population. Le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans de pouvoir, a été investi par son parti pour briguer un nouveau mandat. Ses principaux adversaires sont Mathias Don, ancien ministre des Finances, et Guy Brice Parfait-Colelas, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016. L'UNICEF a appelé ce jeudi le gouvernement de la République démocratique du Congo à rouvrir les écoles fermées depuis mi-décembre pour freiner la propagation du coronavirus. Aucun effort ne doit être ménagé pour s'assurer que les enfants apprennent à lire et à écrire, a déclaré Edouard Baigbeder, représentant de l'UNICEF en RDC, appelant le gouvernement à prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible. Les écoles avaient été fermées de mars à septembre et ont été refermées le 18 décembre après une brève rentrée scolaire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Première séance d'entraînement pour le Rwanda au stade Bonamoussadi. Sur place au Cameroun pour le CHAN qui débute ce samedi. Avant de rejoindre le Cameroun, les Amavubi ont joué deux matchs amicaux face au Congo. Le premier s'est soldé par un match nul 2-2 et le deuxième une défaite 1-0. Logé dans le groupe C, le Rwanda fera face à l'Ouganda lundi pour son premier match. La compétition s'ouvre samedi avec le match inaugural entre le Cameroun et le Zimbabwe. En athlétisme, l'Américaine Brianna McNeil, championne olympique du 100 mètres haies en 2016 à Rio, a été suspendue provisoirement pour entrave au processus antidopage. D'après l'unité d'intégrité de l'athlétisme, sacrée à Rio et médaille d'or mondiale en 2013 à Moscou, McNeil avait déjà été suspendue un an entre 2017 et 2018 pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage et avait ainsi manqué les Mondiaux de Londres en 2017. De retour à la compétition en 2018, elle avait été disqualifiée pour faux départ en série au championnat du monde de 2019 à Doha. À 7 mois des Jeux Olympiques de Tokyo, cette décision est un nouveau coup dur pour l'athlétisme américain, dont l'une des grandes stars, le sprinteur Christian Coleman, a été banni 2 ans pour 3 manquements à ses obligations de localisation anti-dopage. En NBA, les Los Angeles Lakers ont décroché leur 4e victoire d'affilée face à Oklahoma City 128-99 avec un LeBron James, auteur de 26 points, 6 rebonds et 7 passes décisives. C'est le 7e succès consécutif des Lakers hors de leur base, un record pour la franchise californienne. Dans toute son histoire, jamais elle n'avait débuté une saison avec une telle série. De leur côté, les Clippers sont venus à bout de la Nouvelle-Orléans 111 à 106. Les Brooklyn Nets ont battu les Knicks dans le derby new-yorkais 116 à 109. Dallas a dominé Charlotte 104 à 93. Portland a remporté sa quatrième victoire d'affilée aux dépens de Sacramento 132 à 126 grâce notamment aux 40 points et 13 rebonds de sa star Damien Lillard. Pour la troisième fois, Milwaukee s'est imposé 110 à 101 avec au passage le 20e triple-double de sa carrière pour Gianni Antetokounmpo. 22 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Les réactions sont nombreuses après la deuxième mise en accusation du président américain Donald Trump au Congrès suite à l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier. Eric Manirakiza a recueilli la réaction de Jean-Pierre Bonguila, professeur de leadership au Collège Saint-Thomas dans le Minnesota.
C'est légitime. Les États-Unis auront été le berceau de la démocratie, surtout pour le monde moderne. Une incitation à l'insurrection, parlant de crime, c'est quand même quelque chose de fort. Et si les représentants du peuple ont réagi, ce n'est pas par besoin de simple réaction ou simplement parce qu'ils sont tous contre Trump, mais c'est d'abord pour protéger la démocratie dans le monde et la démocratie aux États-Unis. Mais ils partent à partir des évidences. Trump lui-même aura parlé à ses supporters et il leur a demandé d'aller au Capitole. Et c'est lui qui a dit que vous n'allez pas récupérer notre pays avec la faiblesse, mais il vous faudra vous battre pour récupérer le pays. C'est un message très clair. Ça, ce serait l'écroulement complet de la démocratie telle que nous la connaissons dans le monde. Le temps était venu pour que les parlementaires se décident de faire quelque chose et de prendre des mesures voulues. Ça montre au monde, d'ailleurs, que personne n'est au-dessus de la loi et qu'on ne va pas former des rois maintenant et on ne va pas obéir aux caprices de certaines personnes, de certains individus qui voudraient vivre. Malheureusement, ça n'ira peut-être pas jusqu'à avoir Trump quitter le pouvoir avant l'inauguration de Biden. Mais pour moi, la décision, ce qui est fort et ce qui donne un ton sérieux au pays, c'est que les institutions aux États-Unis fonctionnent comme il faut. Vous prenez la Cour suprême qui ne voulait pas aller vers ce que Trump leur demandait de faire, d'annuler les élections. Le vice-président lui-même a désobéi à Trump. Vous avez même les secrétaires d'État dans d'autres États comme la Géorgie qui aura désobéi aussi à Trump. Et ils ont maintenu la fermeté et l'indépendance de la Constitution. Donc ils jurent en fait leur obédience à la Constitution plutôt qu'à un individu. Et ces institutions-là auront sauver la démocratie aux États-Unis et au monde. Donc, j'arrive à la conclusion encore que les parlementaires ont fait quelque chose de bon. C'est la décision qu'il fallait prendre.
Les États-Unis, aujourd'hui, sont profondément divisés. Comment vous voyez l'avenir de ce pays?
Ça prendra suffisamment de temps aux États-Unis de se restabiliser, mais je crois que le pays est encore stable. Il fallait quand même une certaine crise pour que l'Américain arrive à réajuster ses plans vis-à-vis de la démocratie. Donc pour l'instant, nous savons qu'il y a Trump qui a encore suffisamment de fanatiques.
Mais il a appelé à l'unité mercredi. Depuis
Il a appelé à l'unité depuis son impeachment. Bon, je crois qu'il voudrait quand même sauver quelque part là sa peau ou sa réputation. Qu'on dise pas qu'il a été celui qui a divisé profondément les États-Unis, mais ça c'est trop tard.
Jean-Pierre Bonguila est professeur de leadership au Collège Saint-Thomas dans le Minnesota. Notre correspondante à New York, Diledico, a recueilli la réaction de Bala Sissoko, entrepreneur américano-malien vivant aux États-Unis depuis 30 ans.
Je ne suis pas beaucoup surpris de ça, parce qu'on a vu ça venir depuis très longtemps. Mais moi, je pense surtout, en tant qu'Africain, plus précisément en tant que Malien, quelles sont les leçons à prendre ici. Et l'histoire est en train de se créer, et comme c'est la démocratie que nous, les Africains, on veut imiter chez nous. Donc maintenant, ce n'est pas le moment de rester au panier touche, mais c'est beaucoup d'observer et prendre des leçons et prendre des notes aussi. Et les États-Unis, comme bon, on peut dire que c'est le père de la démocratie maintenant, et c'est l'avocat de la démocratie mondiale surtout. Donc, ce qui s'est passé au Capitole l'autre jour, et ça nous a tous choqués, nous, en tant qu'Africains et Maliens surtout. Et puis, mais ça m'a beaucoup ouvert les yeux aussi de vraiment voir que nul est au-dessus de la loi, même le président de la République. Ça, c'est un. Et puis, de deux, et ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Surtout l'Assemblée que nous, on a chez nous. L'Assemblée a des pouvoirs que beaucoup de gens ignorent chaque jour. C'est-à-dire que l'Assemblée peut mettre leur pouvoir sur place pour faire des changements pour la bonne gouvernance. Même si le président part de l'autre côté, l'Assemblée, elle, a le droit vraiment d'exercer le pouvoir que le peuple les a élus pour défendre l'intérêt du peuple, l'intérêt de la gouvernance, de la bonne gouvernance du pays. Et puis maintenant, s'il doit mettre un président de côté, comme malheureusement on est en train de voir chez Donald Trump une deuxième fois, et ça, c'est vraiment un droit de l'Assemblée. Et on ne doit pas attendre toujours jusqu'à ce qu'il y a des coups d'État de chez nous pour l'intervention des militaires pour faire ce changement-là. Voilà. Donc, c'est la vraie démocratie qu'on est en train de témoigner ici.
Bala Sissoko, entrepreneur américano-malien, était joint à New York. Comme de nombreux Africains, les Guinéens suivent assidûment l'actualité américaine avec ses divers rebondissements, dont le dernier en date est la deuxième mise en accusation du président Donald Trump. Notre correspondant Zakaria Camara a recueilli des réactions à Conakry.
Ibrahima Saran, universitaire, suit avec attention l'actualité politique américaine depuis l'invasion du Capitole. Il est de ceux qui pensent que la classe politique américaine s'est lassée du président Trump.
Si vous voyez aujourd'hui qu'au-delà des démocrates, que même les partisans de Trump, le parti républicain se joint aux démocrates pour demander la destitution du président, c'est vraiment, c'est pour dire que tous les Américains sont fatigués de l'attitude du président Trump.
La démocratie américaine doit inspirer les politiques en Afrique, estiment à leur tour ces jeunes Guinéens qui semblent soutenir l'initiative des démocrates. Une initiative qui vise à destituer le président Trump.
S'il n'y a pas eu de réaction, en Afrique, un jour, on pouvait le faire. C'est pourquoi j'ai dit toujours dans mes discussions, si Donald Trump était un Africain, il allait être un pur dictateur.
Même s'il ne reste que deux jours, je pense que ça serait normal pour tout le monde entier de savoir que réellement, que vraiment, les États-Unis prennent en sérieux la démocratie.
Si Donald Trump est destitué, les démocrates auraient fait un coup pour l'humilier, explique Alpha Omar.
Donc je pense que les démocrates veulent humilier Donald Trump. Et sur l'autre côté aussi, c'est une façon de l'empêcher aussi de bénéficier des avantages, c'est-à-dire après la Maison Blanche. Parce que j'apprends que s'il est destitué, ça veut dire qu'il ne bénéficiera plus des privilèges que les Obama ont, les anciens chefs d'État.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Centrafrique, un calme précaire est revenu après des affrontements aux abords de la capitale mercredi. Les autorités ont assuré que la situation est sous contrôle. Les activités ont timidement repris, mais la peur est encore vive au sein de la population. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
La nuit a été longue et incertaine. Ce jeudi matin, la capitale centrafricaine tente de revivre. Plusieurs marchés ont rouvert et les transports en commun ont timidement repris. Cet habitant du 4e arrondissement est sorti au bord de la route prendre des nouvelles.
Ça se passe bien par rapport à la journée d'hier. Là, qu'il y a les motos qui sont en train de venir et il y a aussi les activités qui ont repris par rapport à la journée d'hier. La journée d'hier, je peux dire que la journée était morte.
Les forces de sécurité ont installé plusieurs checkpoints sur les principales artères de la ville. Tous les passagers des transports en commun sont contrôlés.
Oui.
Même si les activités reprennent progressivement, la peur est encore palpable. Les secteurs visés mercredi par les attaques des rebelles sont toujours plongés dans la psychose. Des centaines de familles ont fui leurs habitations. Pour la société civile, les offensives rebelles sur Bangui sont inacceptables. Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
La coalition des patriotes pour le changement a lancé ce jour 13 janvier 2021 une offensive militaire contre les institutions de la République en vue de renverser le pouvoir en place. Le GTSC condamne toute tentative de renversement du pouvoir par la CPC, invite le chef de l'État à créer les conditions d'un vrai dialogue intercentrafricain, ce, dans un bref délai.
Dans les zones touchées par les violences, la mobilisation des troupes loyalistes, leurs partenaires russes et rwandais, devient importante. Le ministre de la Sécurité publique assure que la situation est sous contrôle. Général Henri Wanze Lingisara.
Nous les avons repoussés. À l'heure où je vous parle, ils sont en débandade dans les coins et recoins de ces secteurs. Et nous les pourchassons jusqu'à leur dernier lieu de retranchement. Je viens vous dire de rester vigilants, de passer à tout moment, comme vous le faites si bien, les informations aux forces de sécurité intérieure pour nous permettre de traquer ces bandits jusqu'à les anéantir. Les FACA, la MINUSCA, les partenaires bilatéraux, nous sommes debout. Nous avons le contrôle de la situation. Je répète encore que la situation est sous contrôle.
Selon les autorités centrafricaines, les affrontements de ce mercredi aux portes de Bangui ont fait plus de 30 morts chez les rebelles. La MINUSCA a déploré elle aussi la mort d'un casque bleu rwandais. Fumane Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et notre page Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En 1993, après avoir déterminé que le gouvernement soudanais hébergeait et soutenait des terroristes, y compris le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, les États-Unis ont désigné ce pays comme un État soutenant le terrorisme. Une telle désignation a des graves conséquences. Le pays en question devient un paria international, les investisseurs l'évitent, tandis que d'autres pays s'en méfient. Il est interdit aux États-Unis de fournir de nombreux types d'assistance directe à ce pays. Le gouvernement américain doit imposer divers contrôles à l'exportation et s'opposer aux prêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à un tel pays. Une désignation comme pays soutenant le terrorisme limite la capacité d'un pays à participer au système économique mondial. Cette désignation a également coûté au Soudan son immunité souveraine, une doctrine juridique qui met les gouvernements à l'abri de poursuites civiles ou pénales. En conséquence, les victimes des attaques d'Al-Qaïda et leurs familles ont poursuivi le gouvernement soudanais devant des tribunaux américains. Dans des affaires distinctes, les tribunaux américains ont statué que le Soudan devait des réparations aux familles des victimes des attentats à la bombe perpétrés en 1998 contre des ambassades américaines à Dar es Salaam en Tanzanie et à Nairobi au Kenya, ainsi qu'aux familles de 17 Marines américains morts à la suite d'un attentat à la bombe au Yémen contre les destroyers américains Cole. En août 2019, le peuple soudanais a renversé son dictateur de longue date et le nouveau gouvernement provisoire a déclaré que sa priorité absolue était de débarrasser le Soudan de son statut de paria et de rejoindre à nouveau la communauté des nations. À cette fin, le gouvernement soudanais a accepté de régler les jugements rendus contre lui, fournissant 335 millions de dollars qui seront distribués entre les plaignants. À la suite d'un nouvel examen des progrès réalisés par le Soudan le 14 décembre, les États-Unis ont retiré le Soudan de sa liste des États soutenant le terrorisme. Le 28 décembre, la loi sur les crédits consolidés a été promulguée avec un libellé ouvrant la voie vers le rétablissement de la plupart des immunités souveraines du Soudan. Cette étape représente un changement fondamental dans les relations du Soudan avec non seulement les États-Unis, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale. Il élimine un obstacle majeur à la réintégration totale du Soudan dans l'économie mondiale en réduisant le risque de saisie des actifs du Soudan, ouvrant la possibilité d'une augmentation substantielle du commerce et de l'investissement, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite. Nous félicitons le peuple soudanais pour son insistance continue sur la liberté, la paix et la justice.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.